Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr.
Retrouvons Vitalie Tettinger, présidente du Champagne Tettinger.
Chez Tettinger souffle un véritable esprit de famille. C'est l'âme d'une maison tout entière qui se reflète dans notre champagne.
L'instant Tettinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Quel est le programme du distributeur de dragées au chocolat?
Ah non, mais il faut se remonter quand il pleut comme ça. Qu'est-ce que
vous voulez? Quand ça va pas, faut manger du chocolat.
Voilà, on va dire ça. Nous partons pour Byzance. Ça, c'est pas mal non plus.
C'est Byzance.
Je vous emmène dans le cirque, mais nous n'allons pas y rester puisque nous allons suivre les traces de Théodora.
Franck Ferrand, dans un instant, je vous retrouve demain dès 7h pour la matinale. Il est 9h01. À demain. Les informations Marc Tédé.
Michel Barnier attendu dans une heure à l'Élysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron, celui qui est encore Premier ministre pour quelques dizaines de minutes, a été censuré hier soir par les députés. Un vote tranché de 311 parlementaires qui pour lui succéder. Réponse peut-être ce soir. Emmanuel Macron s'exprime à 20h à la télévision et les proches du chef de l'État indiquent qu'il veut aller vite. Parmi les noms évoqués, celui de François Bayrou, de Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées, ou des personnalités issues des Républicains, Xavier Bertrand ou François Baroin. Mais même sans participation d'un des leurs, les députés LR ne feront pas tomber le prochain gouvernement, assure ce matin le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Du côté du camp présidentiel, Gabriel Attal réunit en fin de matinée les ténors du parti Renaissance. Il propose un accord de non-censure avec le parti socialiste pour échapper, dit-il, à la tutelle du Rassemblement national. Et mais même en cas de nomination rapide d'un premier ministre, il restera du temps pour former son gouvernement. Et quelle que soit la durée, c'est une nouvelle période d'incertitude qui s'ouvre. L'agence de notation Moody's estime d'ailleurs que la chute du gouvernement de Michel Barnier réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques de la France et aggrave l'impasse politique du pays, un événement négatif pour le crédit et donc la note du pays, souligne Moody's. Également dans l'actualité ce jeudi en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol s'accroche au pouvoir après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Son parti s'oppose à la motion de destitution qui doit être mise au vote samedi. Et puis dans le Vendée Globe, malgré une violente tempête en océan Indien, Charlie Dalin a augmenté son avance en tête de la course sur Sébastien Simon. Le duo passe au large en ce moment des îles Kerguelen. 94 000 nautiques les séparent et Johan Richomme est troisième à 390 000 nautiques du leader. On fait tout de suite un point à la Bourse de Paris.
Suivez le point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
Et avec Marjorie Ancelot d'Investir. Bonjour Marjorie.
Bonjour Marc.
Quelle est la tendance à l'ouverture ?
Bien, la Bourse de Paris vient d'ouvrir en baisse limitée, moins 0,3% pour le CAC 40 à 7280 points. On le voit, il n'y a pas de panique après que le vote de la censure a fait tomber sans surprise le gouvernement Barnier hier sur le marché de la dette. Il n'y a pas de nouvelle flambée de la prime de risque avec l'Allemagne. Le spread à 84 points de base reste sur des plus hauts depuis la crise de la dette, mais il est en baisse par rapport au pic de 90 points de base de la semaine dernière quand les investisseurs ont pris conscience que la chute du gouvernement était proche. Depuis, les grandes banques ont eu le temps de prendre des conseils auprès des constitutionnalistes, des experts du droit de la Constitution française. Ils ont trouvé à se rassurer. Ils ont compris que le gouvernement actuel resterait pour l'instant en place et qu'un risque de shutdown à l'américaine n'est pas possible car le gouvernement intérimaire peut recourir si nécessaire, s'il n'y a pas de budget pour 2025, à une législation d'urgence pour collecter des impôts et dépenser de l'argent pour payer par exemple les fonctionnaires. Ils ont aussi compris qu'il n'y aurait pas d'élection législative avant l'été car la Constitution française impose un délai d'un an par rapport aux précédentes élections. Voilà pour le point Bourse.
Merci Marjorie Ancelot d'Investir. 9h04 sur Radio Classique, c'est le moment de retrouver Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour mon cher Marc. Ce matin sur Radio Classique, c'est carrément Byzance.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
« 500 mètres de long, 200 mètres de large et je dis bien 100 000 spectateurs réunis pour des jeux extraordinaires, des chars qui tournoient, des animaux qui s'affrontent avec ces combattants qui se mesurent sous les clameurs d'une foule chauffée à blanc. Voilà ce qu'est l'hippodrome de Constantinople. Constantinople, la capitale de cet empire romain d'Orient qu'on a pris l'habitude d'appeler l'empire byzantin. Nous sommes au tout début du 6e siècle, à l'époque mérovingienne chez nous. Nous sommes dans les années 510 de notre ère et dans les gradins, deux jeunes filles qui sont là pour amuser les spectateurs. Elles jonglent, elles enchaînent les acrobaties, elles font rire les gens, certains donnent une petite pièce. Il y en a une qui a 10 ans, elle s'appelle Théodora et sa sœur, un peu plus âgée, s'appelle Comito. Leur père était montreur d'ours. Il a été depuis employé comme gardien de fauves dans cet hippodrome. À Constantinople, à l'époque, deux clans se disputent à mort la tenue des jeux. Deux clans rivaux, bien sûr. Vous avez les bleus et les verts. Alors les bleus sont plutôt soutenus par les aristocrates, par les patriciens d'origine gréco-romaine qui ont tendance à adhérer au courant orthodoxe du christianisme et au dogme de la Trinité. Et puis, soutenus par le peuple, par la plèbe, les petits artisans, les commerçants, etc., les verts. Les verts qui, eux, ont tendance à suivre un autre courant du christianisme qui croit en l'unicité du divin. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire que le père de Théodora et de sa sœur Comito, leur père appartient aux verts. Et il se trouve que il y a une grande bataille, une espèce de rixe, de bagarre générale. Et alors que Théodora n'avait que 3 ans, le père est mort. Et maintenant, c'est leur mère qui elle aussi appartient au clan des Verts, bien sûr, et qui a épousé le nouveau gardien des Fauves. C'est elle qui s'occupe des deux gamines. Sauf qu'un jour, le beau-père, si l'on peut dire, est congédié, chassé par un autre gardien qui, sans doute, avait dans le clan de meilleurs appuis. Ce ne sont que des histoires de soutien et d'influence, bien sûr. Le nouveau gardien va chasser tout le monde et la mère et les filles se retrouvent livrées à elles-mêmes. Alors, que faire, hein ? Devant le chef des Verts, la mère vient se prosterner en public. Elle supplie les autorités de la reprendre. Évidemment, le nouveau chef fait la sourde oreille. Il emmène la mère hors du cirque. Et il va falloir qu'elle aille maintenant faire sa cour au camp adverse, le camp des Bleus. Elle se prosterne devant les Bleus. Et cette fois, on accepte de les protéger, cette mère et ses pauvres filles qui ne savent plus comment faire pour survivre. Voilà la grande misère dans laquelle commence notre histoire byzantine d'aujourd'hui. J'ai toujours grand plaisir à citer Joël Chevet, qui a fait paraître Les grandes courtisanes, sexe et pouvoir dans l'histoire aux éditions du Rocher. Enfin, reparaître, c'était l'année dernière. Voici ce que nous dit Joël. Cette anecdote, qui la montre dès l'enfance plongée dans la violence des jeux du cirque et la fureur du public déchaîné et l'exacerbation des débats politiques et religieux qui ébranlent alors l'Empire d'Orient, cette anecdote est intéressante. Dans la fournaise survoltée de l'hippodrome, Théodora acquiert une expérience de la foule qui lui sera précieuse. Lorsque devenue impératrice, elle sera confrontée à l'une des émeutes les plus meurtrières de l'histoire de Constantinople. Oui, vous avez bien compris. Celle qui pour l'instant est en train de faire des acrobaties dans les gradins du cirque en essayant de survivre, un jour sera l'impératrice de Byzance.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors en attendant, elles deviennent comédiennes, nos deux sœurs, là, puis danseuses, comme leur mère, hein, dans l'hippodrome, mais aussi dans des théâtres qu'anime la faction bleue. Vous avez bien compris qu'on a changé de crèmerie, si je puis dire. Théodora ne danse pas très bien, mais elle est belle, elle est gracieuse. C'est l'historien Procope, historien byzantin, historien de l'époque, qui avance dans son histoire secrète qu'elle aurait vendu ses charmes. Avec sans cesse de nouvelles inventions amoureuses, elle parvenait constamment à se soumettre à les âmes des débauchés, écrit-il. Oui, bon, est-ce que c'est vrai, ça ? Vous savez, il faut toujours faire très attention à ce que nous disent les chroniqueurs antiques, surtout lorsqu'ils appartiennent à un clan. Mais enfin, l'idée, c'est de délégitimer le pouvoir de Théodora, bien entendu, hein, puisque c'est écrit bien après la mort de l'impératrice, d'ailleurs. Bon, est-ce que Théodora a été la débauchée que nous décrit Procope, sûrement pas. En revanche, elle a sans doute été courtisane. Oui, bien sûr, c'était tout à fait classique à l'époque. Ces hommes puissants qui invitaient les jeunes femmes comme elle à se produire dans des petites soirées de plus en plus privées, vous imaginez. Et elle a 16 ans quand un magistrat, il s'appelle Ekebolos, la prend sous sa protection, si vous me permettez d'exprimer les choses de cette manière. Lui-même est gouverneur à Apollonia, autant dire en Libye, et elle va le suivre de l'autre côté du Mare Nostrum. Elle a peut-être l'idée de l'épouser d'ailleurs, et c'est aux côtés de Ekebolos qu'elle va se familiariser avec la politique, disons, l'administration, la diplomatie, tous les jeux d'influence que recouvre cette notion de politique, jusqu'au jour où il la met à la porte. Pour quelle raison? Est-ce qu'il s'est lassé d'elle? Bon, en tout cas, elle se retrouve isolée. Elle est maintenant loin de chez elle, sans soutien, et pourtant, elle va survivre une fois de plus parce qu'elle sait se battre, cette jeune fille. Elle va frapper à la porte de l'église d'Apollonia. Les prêtres la recueillent, l'envoient suivre une instruction religieuse à Alexandrie. On est là en 520, vous voyez ce que c'est qu'Alexandrie, hein, au début du 6e siècle, capitale certes en grand déclin, mais qui est la capitale intellectuelle de ce monde antique en toute fin de parcours. Toute une tradition d'études, de controverses, de philosophie, et Théodora va s'insinuer dans tout ça. Le patriarche de l'époque, il s'appelle Timothée IV, va lui faire enseigner la lecture, l'écriture, la philosophie, et elle qui était donc, vous avez compris, jongleuse fille de montreur d'ours, par son intelligence et par sa finesse, va faire de cette instruction une arme, véritablement. Elle se fait une amie assez influente qui s'appelle Macedonia, danseuse elle aussi. Les danseuses et comédiennes seront toujours ses alliées, du reste. Macedonia est, disons-le, une sorte d'espionne, c'est la Mata Hari de l'époque, hein, au service de l'empereur Justin Ier. Macedonia va aider Théodora à rentrer à Constantinople, et mieux que ça, elle va lui fournir une lettre de recommandation pour trouver un nouvel emploi carrément au palais. Alors, le palais de l'empereur de Byzance, c'est une administration gigantesque, mais ça y est, elle a mis un pied dans la porte maintenant, notre Théodora, qui a 21 ans et de retour à Constantinople, va pouvoir donner la mesure de ses dons exceptionnels. Constantinople, c'est le carrefour entre Orient et Occident, bien sûr, ville multiculturelle, avec des Perses, des Grecs, des Romains, toutes sortes de commerçants qui arrivent de tous les coins du monde de l'époque, des Arabes, des Russes, un système de caste, avec l'esclavage qui est en fort repli, recul à l'époque. Donc, dans ce monde un peu hétéroclite et tellement ouvert aux idées, aux influences de tout genre, eh bien, on peut dire de Théodora qu'elle a trouvé un milieu d'élection et qu'elle va peu à peu gravir les échelons, et grâce à la lettre de Macédonia, elle rencontre le consul Justinien. Il a 39 ans à l'époque, celui qu'on désigne comme le successeur de l'empereur Justin, jeune homme brillant, ambitieux, mais qui mène une vie tout à fait ascétique. Il faut dire qu'il a été élevé par des moines, il n'est pas encore marié, c'est très, très important ce que je vous annonce là. Alors voilà ce que dit Théodora à Justinien. « Oh, je n'ai pas étudié le grec autant que je l'aurais voulu, mais vous en êtes maîtresse de façon innée », répond Justinien, qui, vous l'avez compris, va bientôt tomber sous le charme de Théodora. Non seulement il est ébloui par sa beauté, bien sûr, mais il apprécie sa culture. Et au-delà de la culture, il est assez charmé par son intelligence. Elle connaît tout, cette jeune femme. Elle connaît l'Empire, elle connaît Constantinople mieux quiconque, et tout le peuple dans son épaisseur. Il se trouve que Justinien est lui-même fils de propriétaire terrien, de paysan, et il sent qu'il y a dans cette jeune femme en face de lui une volonté hors du commun, une énergie qui mène loin et qui pourrait l'aider, qui pourrait l'entraîner lui-même. Il annonce à sa famille qu'il va épouser Théodora. Vous imaginez le scandale, enfin, mais où as-tu la tête levée de bouclier de la mère qui, ça ne s'invente pas, s'appelle Vigilance, de la tante Euphémie, une comédienne, enfin Justinien, tu n'y songes pas. J'ai bien l'impression que Justinien y songe très sérieusement. La marche orientale de la suite Aladdin de Carl Nielsen, l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm, était sous la direction de Sir Andrew Davis.
Vous écoutez Radio Classique.
La mère et la tante de Justinien ne veulent pas entendre parler de ce mariage, mais il se trouve qu'elles vont mourir et ça laisse le champ libre à Justinien qui, en 523, va épouser cette comédienne, va épouser Théodora. Et 4 ans plus tard, c'est l'empereur qui vient à mourir. Le jour de Pâques 527, Justinien est couronné. Il est sacré maintenant dans l'église Sainte-Sophie de Constantinople. Hein. Il est l'empereur de Byzance, le Basileus. Théodora revêt donc la pourpre. Elle est impératrice. Et c'est, vous imaginez l'ironie de cette histoire, c'est dans l'hippodrome qu'on va célébrer l'événement. À quoi songe-t-elle, cette ancienne petite jongleuse qui traînait là dans les travées du cirque au moment de s'installer dans la loge impériale devant cette foule qui l'ovationne? Il y a derrière elle maintenant ses deux sœurs, Comito et Anastasia, complètement éberluées de se trouver dans leur belle robe brodée d'or au milieu de tous ces patriciens extraordinaires, ce qui est en train de se passer. Et très vite, Théodora va imprimer sa marque sur la politique byzantine. Notamment, elle va essayer de réformer les institutions en faveur des femmes. Dès la première année, en 528, Justinien instaure un code civil pour l'ensemble de l'Empire et Théodora soutient des lois qui soient moins dures envers les femmes, qui vont obtenir une meilleure place dans les successions notamment, une obligation de dot dans les familles riches pour conserver une part du patrimoine familial, etc. Et Théodora va même soutenir l'institution du divorce, figurez-vous. Et la légitimation des enfants naturels, d'après vous, ça vient d'où ça? Les femmes adultères seront moins lourdement punies. Théodora, qui était vouée au spectacle éphémère, va maintenant inscrire sa marque dans le marbre des siècles. Et l'ancienne courtisane essaie d'interdire le proxénétisme. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est l'historien byzantin Jean Malalas qui écrit que Théodora, je cite, « libéra les jeunes filles du joug de leur misérable esclavage, ordonnant qu'il n'y ait désormais plus de tenanciers de bordel ». Et elle va acheter en effet 500 prostituées pour les libérer, pour les affranchir tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que pour autant elle arrive à abolir la prostitution. Là, ce serait quand même, c'est un gros morceau si vous me passez l'expression. Justinien, qui est un très remarquable empereur, hein, nostalgique du grand empire romain du temps de Constantin, doit faire néanmoins face à un certain nombre d'attaques sur les frontières, des Perses, des Goths, des Vandales, bref, ça pousse de partout. Il se lance dans des guerres de reconquête en Afrique, en Espagne, en Italie, et après un certain nombre de victoires, il fortifie les cités, il faut asseoir cette expansion, parce que c'est pas tout de faire des conquêtes. Ensuite, il faut stabiliser les choses. C'est l'historien de nouveau Procope qui accuse Justinien de rançonnement. Il tournait ses regards sur ces sujets et s'emparait aussitôt d'un grand nombre de leurs richesses en accusant de crimes imaginaires ceux qui, à Byzance et dans chaque cité, paraissaient les plus prospères. Il accusait les uns de polythéisme, les autres d'appartenir à une secte chrétienne non orthodoxe, les autres de pédérastie, d'autres d'amour pour des femmes consacrées ou d'autres unions interdites, tels autres de fomenter une révolte, ou de préférer la faction des Verts, ou de lui faire injure de quelque autre crime. Il se constituait arbitrairement l'héritier de personnes défuntes, ou même à l'occasion de personnes vivantes, comme s'il avait été adopté par elles. Bon, l'image que nous donne Procope n'est vraiment pas positive. Encore une fois, il faut en prendre et en laisser, bien entendu. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'empereur est impopulaire. Et les fameux clans, là, les Bleus, donc le parti aristocratique, et les Verts, le parti plébéiens, vont finir par s'unir. Il s'est rendu tellement impopulaire, cet empereur, qu'il a réussi à unir les contraires contre lui. Je parle bien de Constantinople, bien sûr. Le 11 janvier 532, on est de nouveau dans l'hippodrome bondé de spectateurs venus pour les courses de chars. Hein, et d'un seul coup, les Verts lancent des insultes contre l'empereur. Et après la course, l'empereur se retire. Il va réprimer cette fronde. Mais que voulez-vous, la révolte est trop forte, elle s'étend partout maintenant. En une semaine, quand l'empereur réapparaît à l'hippodrome pour amadouer la foule en brandissant les évangiles et en concédant quelques réformes, on l'insulte littéralement. Mort au blasphémateur, mort à l'assassin, et les bleus, les verts portent sur un bouclier le neveu d'Anastase, l'ancien empereur, donc, hein, ils veulent destituer Justinien, qui va se terrer dans son palais, et bientôt, la foule cerne ce palais au cri de victoire, victoire, Niké, en grec, vous savez, qui va devenir d'ailleurs le nom Nika, le nom de cette révolte tournante à la révolution. Et dans son palais, Justinien finit par abdiquer, par préparer sa fuite. Et c'est Théodora qui va se dresser contre lui et devant les généraux. Je cite Théodora. « Quand il ne resterait d'autre moyen de salut que la fuite, je ne voudrais pas fuir. Ceux qui ont porté la couronne ne doivent pas survivre à sa perte. Je prie Dieu qu'on ne me voie pas un seul jour sans la pourpre. Que la lumière s'éteigne pour moi lorsqu'on cessera de me saluer du nom d'impératrice. Pour toi, Autocrator, si tu veux fuir, tu as des trésors, le vaisseau est prêt, la mer est libre. Mais crains que l'amour de la vie ne t'expose à un exil misérable et à une mort honteuse. Moi, elle me plaît cette antique parole, que la pourpre est un beau linceul. » Magnifique courage de cette femme qui a une seule politique, tenir, écraser la rébellion, même si c'est de la manière la plus dure. Et c'est vrai que cette attitude a piqué l'orgueil de l'empereur, que Justinien se ressaisit, il ordonne à sa dernière garde, on est là vraiment avec des vétérans, hein, 3000 vétérans, il y a des barbares aussi, des mercenaires, il leur ordonne de fondre sur la foule et de frapper à l'aveugle. Et les émeutiers sont complètement sidérés du massacre qui est en train de transformer Constantinople en bain de sang et bientôt en zone de feu, puisque la ville est à feu et à sang. Les rebelles se réfugient dans l'hippodrome où les soldats vont les achever. On dit qu'il y aura eu dans cette affaire 40 000 morts. La force aura eu raison de la révolte. Le peuple est complètement écrasé dans les arènes même, et c'est sur ces ruines fumantes que Théodora assoit son nouveau pouvoir. Elle a réussi à conserver, mais à quel prix, la pourpre impériale. Quelques mesures de la légende de Lemminkäinen de Jean Sibelius, l'orchestre philharmonique d'Helsinki était sous la direction de Susanna Malki.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Tout le monde a peur maintenant de Théodora. Je cite de nouveau Procope. Tous ceux qui venaient en présence de Justinien et de Théodora, même ceux qui avaient la dignité de patriciens, tombaient maintenant face contre terre, et c'est après avoir touché de leurs lèvres les pieds de l'un et de l'autre, mains et pieds étendus, qu'ils se relevaient pour se retirer. D'ailleurs, quand Théodora s'exprime maintenant, c'est seulement par l'intermédiaire, le truchement d'un magistrat. Et quand elle se déplace pour inaugurer les jeux, par exemple, elle est accompagnée d'une centaine de courtisans et de serviteurs. Elle est devenue une sorte de déesse vivante. L'empereur ne décide jamais rien sans me consulter, dit-elle. Et on n'imagine pas l'influence extraordinaire, le pouvoir en vérité, qu'elle a fini par acquérir. Elle se méfie évidemment des complots. Elle voit par exemple dans le préfet des prétoires d'Orient, Jean de Cappadoce, un ennemi. Elle le bannit. Elle soupçonne le frère de Justinien de vouloir l'évincer. Elle l'expédie à ce moment-là dans une mission très lointaine. Elle s'entoure de ses fidèles. L'eunuque en chef, qui s'appelle Narcès, qui règne littéralement sur le palais. Une amie qu'elle a connue quand elles étaient l'une et l'autre comédiennes, qui s'appelle Antonina. Elle est devenue la femme du fameux général Bélisaire, dont vous avez forcément entendu parler. Elle a aussi des appuis dans l'église, Théodora, en faisant notamment reconstruire la basilique Sainte-Sophie, qui avait été détruite pendant la révolte. Bref, c'est une époque où le dogme chrétien n'est pas encore tout à fait figé. Depuis son instruction religieuse à Alexandrie, elle soutient un courant de la chrétienté qu'on appelle monophysite et qui nie la Trinité. Pour protéger les monophysites qui sont menacés de persécution, elle va jusqu'à remplacer l'évêque de Rome par un prélat qui est à sa main, si je puis dire. Bref, elle se montre assez byzantine finalement, cette impératrice.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
542, la peste décime Constantinople. Même l'empereur Justinien se trouve contaminé. Théodora assure la régence, avec beaucoup de loyauté d'ailleurs. Elle ne prend aucune mesure que n'aurait pu prendre l'empereur lui-même, même en faveur des monophysites. Théodora et Justinien vont exercer ce pouvoir bicéphale, un attelage qui évidemment aurait pu durer longtemps, sauf que Théodora se révèle malade. Elle est atteinte d'un cancer et elle va mourir en 548, 20 ans après avoir revêtu la pourpre. Si Théodora n'eut aucune des vertus d'une sainte, elle eut plusieurs de celles d'une souveraine, dira à la fin du 19e siècle l'historien Henri Housset. C'est vrai qu'elle était d'une certaine manière une impératrice née, cette ancienne danseuse de cirque.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir fait revivre cette grande figure de l'histoire. Autre grande figure de la radio, cette fois, c'est Monsieur Christian Morin. Bonjour Christian.
Pas d'histoire de la radio.
Non, un peu quand même.
Bien, bonjour mon cher Franck. Cet après-midi à 14h, nous vous retrouvons avec une période très difficile en Espagne, l'Inquisition.
Oui.
Plus que difficile d'ailleurs. Torquemada et l'Inquisition espagnole à 14h avec Franck et demain matin 8h-5. Premier rendez-vous sur l'antenne le matin avec Franck Ferrand et David Abiker. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Chez Poltron Sofa, les belles surprises ne se terminent jamais. Prolongation exceptionnelle de la remise de 30% sur tous les canapés qu'on présentait en magasin. N'est-ce pas magnifique? Et si les surprises ne se terminent jamais, la remise de 30% par contre se termine samedi. Poltron Sofa, solo divani di qualità. Et voilà!
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
On peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou, on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme. Pour toute commande du 4 au 9 décembre.
Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offerts. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participant du 4 au 9 décembre. Si accordiaque, voir Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
À 28 ans, Alexis voulait acheter son premier appartement, mais il lui manquait un apport pour son crédit. Quant à ses parents, ils n'avaient pas assez pour l'aider. Alors au cabinet Bougardier, nous leur avons proposé un prêt hypothécaire garanti sur leur résidence principale. Les parents ont ainsi libéré de la trésorerie pour l'apport d'Alexis et leur fils est maintenant propriétaire. Comme pour Alexis, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
À l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, la Philharmonie de Paris présente l'exposition Ravel Boléro. De sa création aux réinterprétations multiples, l'exposition Ravel Boléro rend hommage à la modernité hypnotique de l'œuvre la plus jouée au monde, à travers des manuscrits, photos, vidéos, esquisses de décors et costumes et objets inédits. Ravel Boléro, un portrait kaléidoscope de l'œuvre et de son compositeur, jusqu'au 15 juin à la Philharmonie de Paris. Détails sur philharmoniedeparis.fr.
Chaque dimanche de décembre avant Noël, la magie des fêtes s'éveille en musique à l'abbaye royale de Fontevraud. 2 concerts des arts florissants, la grande messe vénitienne de Vivaldi et un concert de Noël à la bougie, une création originale du trio La Mécanique des Songes et La Petite Fille aux Allumettes par le Macadam Ensemble. Tous les détails sur fontevraud.fr.
L'Opéra Royal de Versailles illumine vos fêtes de Noël avec la flûte enchantée de Mozart en français. Hervé Niquet dirige ici une version familiale chantée en français entre contes et fables initiatiques qui séduira petits et grands. Et le 31 décembre, assistez à un somptueux feu d'artifice depuis la Galerie des Glaces. La Flûte Enchantée, du 27 décembre au 1er janvier, un spectacle à ne pas manquer à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur opéraroyal-versailles.fr.
Et voilà, papa a profité de l'offre de la deuxième paire offerte chez Atoll. Et il a décidé de l'offrir à...
La femme que je préfère dans tout l'univers.
Mais voilà, la femme que papa préfère dans tout l'univers, c'est...
Ta mère? Non, tu... Tu les as offertes à ta mère ?
Ce n'est pas maman.
En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire offerte pour vous ou pour un proche chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique, pour la 7e fois consécutive. Atoll ! Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voire sur atoll.fr.
Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et jusqu'à 4000 euros de bonus écologique. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, voire conditions sur service-public.fr et Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
midi, tous classiques, avec Christian Morin sur Radio Classique.
Et avec Yann Lovray aux manettes ce matin, programmation Francis Drezel comme d'habitude, en vous disant bonjour. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons fêter un anniversaire, celui de Christian Zimmermann, 68 ans. Il est né dans le sud de la Pologne le 5 décembre 1956. Je rappelle aussi que Christian Zimmermann a été premier prix du concours Chopin de Varsovie en 1975. Il avait 18 ans. Eh bien, nous sommes en 1975 et lors de ce grand concours, il enregistre cette valse brillante numéro 2 de Chopin, bien sûr.
Thank you.
La valse brillante numéro 2, Frédéric Chopin, Christian Zimmermann était au piano, c'est son anniversaire aujourd'hui, on va donc le célébrer. Il a enregistré les concertos de Beethoven et de Brahms à Vienne avec Leonard Bernstein, et ou alors après, lorsque Bernstein nous a quittés, eh bien, il est resté dans l'esprit de Bernstein pour d'autres enregistrements concernant les concertos de Beethoven. On va écouter ici, dirigé par Bernstein, le Philharmonique de Vienne avec Christian Zimmermann au piano. Donc, c'est le final du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Beethoven. Thank you. Beethoven, le concerto pour piano et orchestre numéro 4, le final dans Tous classiques, Christian Zimmermann au piano et le Philharmonique de Vienne que dirigeait Leonard Bernstein, là nous étions en 1989. Avant de retrouver Christian Zimmermann jouer un impromptu de Schubert, l'impromptu numéro 2, petit détail concernant notre ami Christian Zimmermann. Il a une phobie des pianos et il s'intéresse de très près aux possibilités techniques de l'instrument. Et jusque-là, il voyageait avec ses propres pianos Steinway, ce qui lui a valu une curieuse mésaventure aux États-Unis en 2001. Je souris, mais c'était pas très 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 agréable pour lui. Après les attentats du 11 septembre, les douaniers, trouvant suspecte une odeur de colle, ont totalement détruit l'un de ses pianos. Depuis, non seulement il les démonte pour le transport, il les remonte pièce par pièce, et à la suite de cet incident, Zimmermann a finalement décidé en 2009 de ne plus se produire en Amérique du Nord. Heureusement, il y a les disques et vous êtes sur Radio Classique. Cet impromptu numéro 2 de Franz Schubert, joué par Christian Zimmermann, est suivi de, pour terminer cette première demi-heure consacrée à Christian Zimmermann, de ce très beau prélude, La fille aux cheveux de lin. C'est Claude Debussy en signature. Claude Debussy, pour terminer cette demi-heure avec Christian Zimmermann, le prélude, très très beau, La fille aux cheveux de lin. Dans un petit instant, un point d'info, il sera déjà 10h.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles. Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Grâce à vous, la Fondation du patrimoine sauve nos châteaux en péril. Mais aussi nos églises,
nos petites chapelles.
Sans oublier nos théâtres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle sauve aussi nos lavoirs, nos moulins, pour les générations futures. Alors faites un don sur fondation-patrimoine.org. Fondation du patrimoine, donnons un avenir à notre passé.
Fabrice Sommier, vous êtes sommelier, meilleur ouvrier de France. Quel est le cadeau de Noël idéal pour un gourmet ?
Mon coup de cœur, ce sont les grands vins des domaines familiaux de Nicolas et Myrène de Lorgerie, en Languedoc. Depuis 30 ans, ils ont patiemment sélectionné les plus beaux terroirs d'altitude de leur région. Les vins sont gourmands, frais et élégants. Une magnifique émotion à chaque dégustation.
Les domaines de la famille de Lorgeril, l'élégance en Languedoc. Chez votre caviste et sur lorgeril.wine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Radio Classique présente Nos Reines de France, le nouveau livre de Franck Ferrand.
D'Aliénor d'Aquitaine à Marie-Antoinette, ce sont 15 reines capétiennes qui nous reçoivent et qui se livrent.
Nos Reines de France, par Franck Ferrand, aux éditions Perrin, en vente en librairie et sur radioclassique.fr.
Le pianiste François-Xavier Poisat ouvre les portes de l'imaginaire ravelien avec Florilège, un concert salle Corto dans le prolongement de son intégrale des œuvres avec piano de Ravel chez Aparté. François-Xavier Poisat et ses invités prestigieux explorent la diversité des inspirations de Ravel avec Histoire naturelle, Le tombeau de Couperin, les chansons Madécas, La valse et le trio avec piano. Ravel, par François-Xavier Poisat, salle Corto à Paris, le 11 décembre à 20h.
Aujourd'hui, de nombreuses communautés religieuses, catholiques, protestantes ou orthodoxes, faute de moyens suffisants, ne peuvent entretenir le patrimoine artistique ou culturel des monastères qui les abritent. En faisant un don à la Fondation des monastères, vous pouvez contribuer, même modestement, à soutenir cette cause. Vous souhaitez nous aider ? Rejoignez-nous sur le site fondationdesmonastères.org. Par décret du 21 août 1974, la Fondation des monastères est reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet de recevoir tous les dons et legs en franchise totale de droits de mutation et de faire bénéficier les donateurs.